savoir plus, votre rendez-vous d'information avec le soutien du Conseil départemental du Pas-de-Calais, chaque jeudi de 11h à midi sur Radio Plus.
Il faut savoir.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Plus dans votre émission Savoir Plus. Cette semaine, on s'intéresse tout d'abord à la communauté de communes Flandre-Lys, une des dernières communautés de communes à avoir mis en place une aide à destination des artisans, commerçants et très petites entreprises. Julien Maille de Radio Plus a tout d'abord interviewé Joseph Cateau, le vice-président aux finances de la communauté de communes Flandre-Lys.
Joseph Cateau, bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous êtes maire de Fleurbaix et vice-président de la communauté de communes Flandre-Lys en charge du domaine des finances. La CCFL qui est à la relance économique avec la mise en place d'une aide aux très petites entreprises du territoire, c'est une aide dont on savait qu'elle allait arriver puisque Bruno Ficheux, lors d'une précédente intervention, Bruno Ficheux, le président de la CCFL, nous disait que l'accompagnement financier serait inéluctable. Alors c'est vrai que cette aide arrive tardivement, si l'on compare avec d'autres intercommunalités, qui ont accompagné les entreprises plutôt au début de la crise sanitaire, qu'est-ce qui a été le déclencheur sur le territoire de Flandre-Lys pour mettre en place cette aide?
Alors, il faut ajouter à mes différentes fonctions, je suis aussi expert comptable et donc en prise directe avec les entreprises. Et j'ai pu constater que la plupart des communautés de communes s'alignaient sur les critères de l'État pour attribuer leurs aides. Alors, je ne critique pas, bien sûr, le principe, mais je pense qu'il fallait peut-être faire un petit peu différent. Et donc, c'est ce qui a motivé ce temps de réflexion pour avoir une aide différenciée de ce qui peut se passer ailleurs et qui prend en compte des dépenses fixes des entreprises et non pas, comme la subvention de 1500 euros, un saupoudrage indépendant des charges réelles des entreprises. Je ne dis pas qu'elles n'ont pas besoin, bien sûr, de ces aides, mais en tout cas, celles dispensées dans la communauté de communes Flandre-Lys fait état de charges et de dépenses réellement supportées par les entreprises.
Et c'est vrai que c'est un mode de fonctionnement, comme vous l'avez souligné, assez différent de ce que l'on peut voir ailleurs. Là, vous remboursez concrètement les dépenses qui peuvent être engagées par les entreprises. On n'est pas sur un prêt d'honneur, on est vraiment dans de l'application concrète, là.
Oui, on est vraiment dans la subvention. On a voulu que les choses soient simples, hein, pour qu'elles puissent être rapides. Donc, on a pris des critères de dépenses fixes qui sont difficilement contestables puisqu'elles sont le plus souvent appuyées d'actes juridiques, que ce soit les baux commerciaux, les contrats de crédit bail, les contrats de prêt, hein, puisque la composante de cette subvention est constituée donc du loyer pour les locaux, des loyers à long terme pour le matériel, les redevances de crédit bail et enfin les emprunts que supportent les entreprises pour les acquisitions de matériel. Hein, et donc, l'aide prend en compte ses composantes. Cette aide est plafonnée à 5000 euros et elle prend en compte 2 mois de charge puisque l'interruption, sauf bien sûr pour les professions qui ne pourront pas rouvrir le 11 mai, mais l'interruption va être très proche de 2 mois. Hein, donc, la base, c'est les loyers, que ce soit des locaux, des matériels, les redevances de crédit bail et les remboursements d'emprunt. Encore une fois, tout ça est validé le plus souvent par des actes juridiques signés avec des parties différentes et donc la contestation, elle est plus difficile.
Alors justement, comment est-ce que ça s'applique concrètement? Quelles sont les modalités et les démarches à faire pour bénéficier de cette aide?
Alors, tout d'abord, il faut être une très petite entreprise, donc ça s'adresse aux entreprises qui ont au maximum 10 salariés. On a prévu une fourchette de chiffre d'affaires comprise entre 30 000 pour éviter ceux qui ont des activités extrêmement partielles, hein, ou complémentaires à une activité salariée. Et elle va jusqu'à 1,2 million, sachant qu'elle est dégressive de 1 million à 1,2 million pour éviter la clause couperet. Celui qui a 1 million et 1 euro de chiffre d'affaires, il n'a pas l'aide. Et ça, c'est toujours frustrant. Donc, on a voulu dégressive de 1 million à 1,2 million. Il faut avoir une activité commerciale ou artisanale, hein, c'est vraiment l'activité qui est prise en compte. Hein. On sait bien qu'il y a des sociétés d'exercice libéraux, mais celles-là ne sont pas prises en compte, c'est l'activité. On a pour le futur, l'idée, bien sûr, d'aider les professionnels libéraux qui ont souffert, hein, et qui souffrent encore. Donc là, on étudie, mais elle n'est pas encore opérationnelle, une aide pour ces professionnels libéraux, de même que sont exclus les activités agricoles, les associations et tout ce qui est société civile. Donc aujourd'hui, on a sur le site de la CCFN, hein, il suffit de se connecter sur le site, vous avez accès à un formulaire que vous remplissez en ligne et qui vous donne directement le montant de l'aide à laquelle vous pouvez prétendre en fonction de la typologie de votre entreprise.
Oui, et pour avoir jeté effectivement un coup d'œil à ce formulaire, on est vraiment aussi dans des dépenses, on le disait, concrètes, puisqu'on demande d'indiquer par exemple le montant du loyer du local que l'on loue pour mener à bien son activité. Et donc, cette aide ensuite est traitée par les services économiques de la CCFL, c'est ça?
Voilà, donc d'abord, il y a un premier traitement, c'est que tout le formalisme soit respecté, puisque on demande, puisqu'il s'agit d'argent public, il faut qu'on en vérifie, bien sûr, que les entreprises soient bien réelles, donc avec la production d'un cabis ou d'un extrait d'immatriculation à la Chambre des métiers, que les dépenses invoquées sont bien justifiées pour la production des différents actes, que ce soit un bail, un contrat de location ou un contrat de prêt. Donc il y a cette première partie formelle, et ensuite on a constitué une commission composée d'un élu de chacune de nos communes qui validera qu'il y ait bien tous les éléments et que l'aide peut effectivement être versée. Donc on a une première commission ici ce jeudi, et donc on va pouvoir déjà débloquer des aides très certainement dans le courant de la semaine prochaine.
Qu'est-ce que ça représente justement comme effort sur le plan budgétaire pour la communauté de communes Flandre-Lys?
Alors, on a prévu une enveloppe globale de 5 millions d'euros, une première enveloppe que l'on estime à peu près 3 millions d'euros pour cette aide présentée pour les entreprises commerciales et artisanales. Il y a environ 800 à 900 entreprises qui sont potentiellement concernées, hein, donc je pense que l'enveloppe devrait suffire. Ensuite, on aura l'aide pour les activités libérales. On aura une aide ciblée pour les entreprises un peu plus importantes, les plus de 10, puisqu'on n'a pas forcément de population homogène, hein, et on interviendra très certainement au coup par coup en fonction des difficultés de ces entreprises. Et je pense qu'il faudra peut-être aussi intervenir dans un an, lorsque les prêts garantis par l'État viendront à échéance, on risque d'avoir là aussi un besoin de soutenir nos entreprises. Donc on garde une petite réserve pour être présent aussi dans un an pour ce besoin.
Vous avez des craintes justement sur la situation économique du territoire, sur le court terme, le moyen terme et peut-être le long terme également?
Ah, effectivement, moi je suis bien placé pour voir l'activité des entreprises de par mon activité, et si aujourd'hui, il faut le reconnaître, l'État a mis en place bon nombre d'outils, hein, qui permettent aujourd'hui aux entreprises de plus ou moins survivre, hein, il y a quand même des aides, des prêts garantis, il y en aura encore, puisque j'ai cru entendre qu'on allait avoir un allègement de charges pour les TPE annoncé par Monsieur Darmanin. Donc aujourd'hui, peut-être qu'en serrant un peu et avec les économies, ça passe, mais les prêts garantis par l'État devront être remboursés, et dans un an, la voyure risque d'être un peu compliquée, et il faut bien reconnaître que l'activité ne va pas redémarrer à 100% le 11 mai. Il y a un tas de contraintes qui vont imposer aux entreprises de réduire un coiffeur, on aura peut-être supprimé des fauteuils, donc on n'aura pas une activité normale dans les différentes entreprises. On risque de traîner comme ça cette crise longtemps, hein, et donc ouais, je crains que à terme, si on n'est pas là pour apporter une seconde aide, on est encore de la casse.
Et c'est à suivre, effectivement. Alors, je reviens sur les différentes aides que vous envisagez de mettre en place au niveau de la communauté de communes Flandre-Lys. Il y a donc cette aide concrète pour les très petites entreprises qui vient juste d'être mise en place. Vous avez également parlé des PME du territoire. Qu'est-ce qui est concrètement prévu pour elles prochainement?
Alors, comme je vous l'ai dit, hein, on n'a pas de public homogène, donc on peut pas dire telles entreprises de telle taille, etc. Les plus de 10 ont des spécificités et donc ce serait des interventions au coup par coup en fonction d'une analyse entreprise par entreprise, ce qu'on peut pas faire pour le tissu des entreprises artisanales et commerciales. Il y en a environ 900, donc on peut pas individualiser, alors que les plus de 10, la population est quand même beaucoup plus restreinte. Donc l'intention, c'est d'être là en fonction des besoins que rencontre l'entreprise et des solutions qu'elle a déjà mises en place pour éventuellement apporter un appui. Mais ce sera un appui personnalisé.
Donc effectivement au cas par cas selon les entreprises. Alors je reviens sur l'application de cette aide aux très petites entreprises. Est-ce que cette aide est cumulable avec les autres dispositifs de secours existants mis en place au niveau départemental, au niveau régional et même au niveau national, Joseph Cato?
Oui, bien sûr. Oui, c'est une aide totalement indépendante qui n'est pas conditionnée par la perception ou non d'autres aides. Hein, donc c'est une aide très ciblée. Hein. Vous avez bien compris que c'était les dépenses fixes qui servaient de base, hein, celles qui malheureusement reviennent, même si elles peuvent être différées puisque certaines banques ont différé les remboursements d'emprunts, mais c'est pas un cas général et puis il s'agit que d'un différé. Donc dans 6 mois, il faudra bien rembourser. Donc cette aide permettra d'assouplir ou d'alléger la trésorerie. Hein, donc on est présent aujourd'hui très concrètement et pour des dépenses fixes, contrôlables et contrôlées.
Est-ce que cette aide devra être remboursée par les entreprises à court ou moyen terme?
Ah non, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une subvention. Hein, donc ce qui est donné est donné.
Alors, nous enregistrons cette interview le mardi 5 mai. À l'heure où l'on se parle, Joseph Cato, combien de demandes avez-vous eues à ce jour?
Alors, relativement peu, hein, puisque dans le dossier, si vous l'avez consulté sur le site de la communauté de communes Flandre-Lys, il faut indiquer le chiffre d'affaires du mois de mars et du mois d'avril. Hein, donc, tout le monde n'a peut-être pas fait les arrêtés de compte. Et donc, on s'attend dans le courant de la semaine à voir progresser le nombre de demandes. On en a eu une quinzaine aujourd'hui. Par exemple, ceux qui étaient en cessation complète d'activité, forcément, leur chiffre d'affaires était quasiment connu d'avance. Hein, mais on s'attend à ce que les demandes arrivent ici dans les prochains jours et début de semaine prochaine.
Et quelle est globalement la réaction des entreprises qui sont bénéficiaires de cette aide? J'imagine qu'elles doivent se sentir soulagées de pouvoir être accompagnées.
C'est quand même une véritable aide. Hein. 5 000 euros, ça pèse. Hein. C'est sûr que on a des aides complémentaires, hein, les fameux 1 500 euros, on a des allègements de charges, mais là, je pense que c'est une aide qui compte, c'est une aide qui n'est pas arbitraire, hein, puisqu'elle est causée par des dépenses fixes bien réelles, hein, donc, encore une fois, pas contestable ni contestée. Elles sont bien vues, hein, puisque, encore une fois, les entreprises souffrent et souffriront encore pendant quelques temps.
Juste avant de se quitter, Joseph Cato, est-ce que vous pouvez nous communiquer la date de fin de dépôt des dossiers de ces demandes d'aide?
On n'a pas fixé de date limite. S'agissant d'une aide, on suppose que dès qu'elle sera connue, les gens s'empresseront de la demander. Sinon, je veux dire, ça n'a pas trop de sens dans un an d'aller solliciter une aide. Ça veut dire qu'on n'en avait pas forcément besoin. Hein, donc, on n'a pas mis de critères. On pense que si on laisse 6 mois aux gens pour réagir, c'est déjà beaucoup, mais je pense que la réaction sera immédiate, en tout cas dans les prochains jours, parce que elle correspond à un véritable besoin pour l'ensemble des entreprises.
Très bien. Bien, merci beaucoup, Joseph Cato, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes maire de Fleurbaix, expert comptable de profession et vice-président de la communauté de communes Flandre-Lys en charge du domaine des finances. Merci à vous.
Merci également, excellente journée. Au revoir, monsieur.
Chaque jeudi matin, à partir de 9h, Radio Plus vous propose des magazines et reportages. Vous faites partie d'une association ? Venez partager vos activités. N'hésitez pas à nous contacter au 09 52 22 22 07 ou sur contact@radioplus.fr.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Plus et de l'émission Savoir Plus. On reste dans la communauté de communes Flandre-Lys, en compagnie à présent de Bruno Fischeux, le président de cette communauté de communes, et on aborde à présent la question cruciale du déconfinement qui doit démarrer en principe, sauf imprévu, ce lundi 11 mai.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maire d'Éther et président de la communauté de communes Flandre-Lys, qui regroupe les 8 communes de Éther, Merville, Averskerk et La Gorgue dans le Nord, et de Fleurbaix, Les Trèmes, Laventy et Sailly-sur-la-Lys dans le Pas-de-Calais, communauté de communes qui touche environ 40 000 habitants. Nous vous avions interviewé le 6 avril dernier pour évoquer la situation du territoire, et nous vous sollicitons de nouveau alors que le déconfinement approche, prévu le 11 mai. Beaucoup de choses restent encore à déterminer, même si les choses évoluent au jour le jour, mais vous êtes déjà dans la préparation de ce déconfinement et en première ligne de l'organisation de ce dernier, les élus locaux. Est-ce que, en tant que maire et en tant que président d'intercommunalité, vous vous sentez suffisamment éclairé pour pouvoir prendre les bonnes décisions, Bruno Fischeux ?
Alors, éclairé, oui, nous sommes éclairés. Le problème, c'est que l'éclairage, il a tendance à changer de spot tous les jours ou tous les deux jours. C'est un peu flou quand même, les informations qui nous viennent de l'État, mais bon, on essaye de faire avec et on sait bien que quelque part, c'est pas forcément facile. Donc, on s'adapte. Et la méthode que nous avons mise en place au niveau de l'intercommunalité, c'est une réunion de l'exécutif, hein, donc des maires et des vice-présidents, tous les jeudis à 17h, en présentiel. Nous discutons entre nous des différentes thématiques. Et la thématique qui est très prégnante en ce moment, c'est la réouverture des écoles. Donc on essaye d'échanger nos expériences pour faire au mieux. Et puis on essaye aussi d'avoir une gestion un peu uniforme de l'ouverture des écoles sur le territoire Flandre-Lys.
La réouverture des écoles, justement, certains maires ont pris position contre cette réouverture des écoles, soit de manière individuelle, comme à Aumont, par exemple, dans le Nord, soit de manière collective, comme la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, avec les 36 maires du territoire qui ont décidé qu'ils ne réouvriraient pas les écoles le 11 mai. Quelle est la position de la CCFL et de ses maires ?
La position de la CCFL, très globalement, c'est quasiment une position unanime, c'est la réouverture des écoles. On comprend bien que il faut relancer la machine économique et que si on ne permet pas aux enfants de pouvoir garder, entre guillemets, de manière éducative, puisqu'on parle bien des écoles, leurs enfants, ils vont avoir beaucoup de mal à repartir au travail. Donc on connaît notre responsabilité. Maintenant, ce qui nous ennuie un petit peu, c'est que ce qui nous est demandé en termes de protocole sanitaire, c'est extrêmement contraignant et extrêmement difficile à mettre en place. Donc nous avons remonté nos difficultés au niveau de la sous-préfecture dont on dépend, c'est-à-dire la sous-préfecture de Dunkerque, et on a demandé à avoir des protocoles sanitaires allégés au niveau de l'État. Alors, il y a une dizaine de jours, on avait un protocole de 63 pages. Aujourd'hui, il est devenu un protocole de 54 pages, donc un peu allégé. Ça reste difficile à mettre en place, mais voilà, on est vraiment en train de se retrousser les manches pour essayer vraiment de parvenir à cette ouverture des écoles. Sur les dernières informations, nous devrions, 7 communes sur 8, réouvrir le 12 mai. Bien évidemment, c'est pas l'ensemble des élèves qui seront accueillis. On parle environ de 25% de présence des élèves. Et puis, on aurait un petit décalage sur la commune de Laventy qui réouvrirait, elle, ses écoles le 18 mai.
Autre clé du déconfinement, ce sont aussi les masques. On en parlait lors de votre dernière intervention. Depuis quasiment le début de la crise sanitaire, la communauté de communes Flandre-Lys s'est investie dans l'opération Masque en or. Où en est cette opération ?
Alors, au niveau de Masque en or, ça tourne très très fort. Et quelque part, les kits qui nous sont fournis par l'association, donc des morceaux de tissu, des élastiques, et puis il y a la partie couture à faire par nos volontaires, ben finalement on va plus vite que l'équipe qui nous arrive, donc ça continue très bien. Et puis il y a eu des initiatives qui ont été prises, notamment commune de Laventy, commune d'Éther, où on a vraiment mis en place, je parle pour Éther par exemple, d'une vraie petite usine, une fabrique. Hier on a battu le record, on a fabriqué 810 masques en 6 heures, donc c'est des choses qui tournent très 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 bien. Donc on poursuit un petit peu notre effort chacun de notre côté dans les communes. Et puis au niveau de l'intercommunalité, là on a passé une commande à la confection de la liste qui se situe à Nieppe, et nous avons commandé 40 000 masques tissus La première livraison de 10 000 masques aura lieu le 7 mai, donc ici en fin de semaine. Et on va commencer la distribution vers les communes. Donc on a un point central communauté commune. On fournit chacune des communes masques, enveloppes pour mettre dans les boîtes aux lettres. Et puis chacune des communes s'occupe de distribuer dans les boîtes aux lettres de ses concitoyens. Voilà comment on fonctionne. Donc on aura sur le territoire au moins un masque tissu par habitant. La région va nous livrer, et ça il faut saluer aussi la performance de la région en France et de son président Xavier Bertrand et de tous les services qui ont travaillé pour lui. Et donc on aura à partir du 11 mai aussi la livraison des masques de la région. Donc de nouveau les habitants de la CCFL bénéficieront de ces masques puisqu'on va être le pivot pour la distribution de ces masques. Donc on avance bien au niveau des masques, la situation est moins tendue qu'elle ne l'était il y a une quinzaine de jours.
Si je résume bien, on va tourner sur une moyenne de 2 masques par habitant du territoire, voilà. C'est ça?
On est plutôt à 3 qu'à 2, puisque il y a des gens qui n'ont pas fabriqué leurs masques eux-mêmes, mais qui ont réussi à les acheter. Je pense à la commune de Lagorre qui a commencé à distribuer. Il se passe aussi des choses sur la partie de Merville. Donc quasiment les habitants du territoire Fondrelis bénéficieront de 3 masques.
Vous parliez de commandes de masques auprès de la confection de la liste. C'est aussi un moyen de faire travailler les entreprises du territoire. C'était important pour vous?
Alors, on a travaillé avec la confection de la liste, même si la totalité des masques ne seront pas fabriqués sur le territoire Hauts-de-France, puisqu'il y a une partie qui viendra, ils ont une succursale en Pologne, donc il y aura des masques qui seront aussi fabriqués en Pologne, mais il y a aussi des choses qui sont faites sur place, il y a aussi du tissu qui est fait sur place, il y a aussi de la découpe qui est faite sur place. On a travaillé aussi avec l'ascenseur, entreprise textile de Merville, hein, notamment pour tout la découpe des masques qui sont faits par les fabriques municipales, on va les appeler comme ça. Donc oui, il y a quand même un petit peu de business qui est fait au niveau local, et ça c'est extrêmement important. Et puis ça va susciter sans doute, je pense à terme, peut-être des rapatriements d'activités.
Ouais, ça c'est aussi quelque chose qui fait écho un petit peu dans la bouche de certains dirigeants. Xavier Bertrand souhaitait aussi le retour d'une filière textile dans notre région. Vous aussi, vous-même, visiblement, vous vous positionnez en faveur d'un rapatriement de la production.
Ben, il y a un vrai savoir-faire. Moi, j'ai pas eu de mal à trouver à Éther 104 bénévoles pour faire tourner notre fabrique de masques. Alors, ça n'est pas toutes les couturières, mais on en a au moins 60. Et on voit qu'il y a un vrai, vrai, vrai savoir-faire, que les gens retrouvent les gestes et puis peuvent partager finalement leur savoir-faire. Oui, bien évidemment, je suis complètement en phase avec le président de notre région Hauts-de-France par rapport à cette relocalisation. Moi, j'ai quasiment habité toujours Éther dans ma vie. Lorsque j'avais 10 ans et que je sortais de l'école à l'heure du midi, il y avait des sirènes qui hurlaient et on avait tous les ouvriers et les ouvrières qui sortaient. Donc, c'est notre histoire. La vallée de la Lys, le textile, hein, en gros on va de R sur la Lys jusqu'à Armentières, et donc il y a vraiment, et puis après on va aussi vers la métropole de Lille bien évidemment, il y a un vrai savoir-faire, hein, on va jamais parler, enfin tout le monde connaît bien Roubaix, Tourcoing, tout ce savoir-faire par là, et je crois qu'il y a vraiment quelque chose, et puis le textile aujourd'hui il y a aussi des choses de très très haut niveau, et là-dessus d'ailleurs il y a des universités, hein, donc de niveau supérieur, sur toute la partie du textile en Hauts-de-France, il y a vraiment quelque chose à faire. Ouais, ouais, je pense que c'est notre histoire. On doit pouvoir relocaliser en partie.
Et sans doute aussi pouvoir créer de l'emploi dans un contexte économique qui est difficile avec cette crise du coronavirus.
Et ben, si ce qui vient de se passer, ça ne sert pas de leçon à nos dirigeants nationaux, mais au niveau national, ben c'est qu'ils n'auront rien compris. On parle de l'industrie pharmaceutique et on parle bien évidemment de la fabrication des masques papier, etc. etc. Moi, je suis très attaché à l'idée européenne et mes engagements politiques ont toujours été portés par l'idée européenne qui était portée par Jean-Louis Borloo. Et je suis bien évidemment pour une européanisation de la production et non pas une mondialisation de la production. On est bien trop dépendant, bien évidemment, des pays asiatiques et pour y avoir beaucoup cheminé au cours de ma carrière professionnelle, bien sûr qu'ils ont un savoir-faire, mais c'est un savoir-faire essentiellement lié à un coût de production qui est bas. Le gros savoir-faire, il est quand même encore chez nous et il faut réussir à travailler entre les 27 pays de l'Union. Et c'est ça la clé réelle.
Alors pour clôturer cette question sur les masques, cette commande de masques auprès des confections de la liste, ça représente un budget de combien pour la communauté de communes?
Eh ben, c'est très simple, 3,50 € le masque hors taxe. Donc allez, en gros, vous touchez le max à 4 €, il en faut 40 000, 160 000 euros.
Alors, cette organisation du déconfinement, ça implique aussi de réouvrir les services, notamment au niveau intercommunal. L'exemple des déchetteries, par exemple. Vous avez entrepris de rouvrir les déchetteries avant le 11 mai et ces réouvertures sur le territoire ont connu quelques difficultés, quelques couacs, en raison d'une affluence importante. Est-ce que c'est réglé aujourd'hui?
La communauté de communes, Flandre 10, travaille essentiellement avec la communauté de communes de Flandre intérieure et un peu avec des communes de la communauté de communes des Hautes-Flandres. Nous sommes regroupés dans un syndicat qui s'appelle le SMICTOM, syndicat mixte intercommunal de traitement des ordures ménagères, et c'est ce syndicat qui gère nos déchetteries. Donc forcément, le territoire est très vaste. Étant donné que ces déchetteries ont été fermées pendant plus de 6 semaines, à un moment donné, vous avez un afflux de gens vers la déchetterie. Donc, on a pris une position politique très forte, qui était de dire, on va quand même pas applaudir nos soignants à 20h et laisser les déchetteries ouvertes pour aller apporter de l'herbe ou des branches qui ont été taillées. Donc, on a été très ferme par rapport à ça, parce que ça n'était pas le sens, c'était pas essentiel. Maintenant, on peut réouvrir, ça y est, depuis quelques jours, c'est réouvert. Et donc, il a fallu s'organiser, notamment pour gérer les afflux, et l'arrivée sur les plateformes de déchetterie se fait par l'intermédiaire de rendez-vous personnalisés. Donc au début, les 2 premiers jours, ça a été un petit peu court, en effet, pour prendre les appels, tellement il y a eu finalement, comme on dirait à la télévision, le standard a explosé. Et puis depuis, il y a une plateforme téléphonique qui a été mise en place avec notre partenaire Veolia, et ça fonctionne maintenant très bien sur les prises de rendez-vous, mais c'est vrai qu'il y a eu 48 heures durant lesquelles c'était extrêmement compliqué de joindre les services. Donc tout ça, ça va se réguler progressivement, et puis je pense qu'on y verra beaucoup beaucoup plus clair d'ici 3-4 semaines, puisque je sais qu'il y a des utilisateurs qui ont des rendez-vous programmés dans 2 semaines. Donc voilà, il faudra un bon mois pour régulariser tout ça.
On peut imaginer aussi, au gré de l'évolution du déconfinement, que les plages horaires de la déchetterie vont aussi aller en s'élargissant.
Disons que en s'élargissant, puis après, c'est que les déchetteries n'ont pas en effet aujourd'hui retrouvé leur marche à 100%, parce qu'il a fallu concentrer le personnel du syndicat pour vraiment venir faire, entre guillemets, la police au niveau des déchetteries, puisque vous avez beau expliquer que c'est uniquement pour les déchets verts dans un premier temps, qu'il y a des rendez-vous horaires, vous avez toujours des personnes qui ne respectent pas. Il faut faire un petit peu la police à l'entrée des déchetteries, ce qui a nécessité la présence d'un peu plus de personnel. Mais oui, je pense que dans le temps, on retrouvera un fonctionnement normal et un élargissement, en effet, des plages horaires. Vous avez tout à fait raison.
Un mot rapidement sur les médiathèques, Bruno Ficheux, les médiathèques du réseau Esperluette, hein, le réseau de la communauté de communes Flandre Lys, auquel nous consacrerons bientôt un sujet. Vont-elles ouvrir dès le 11 mai? Avez-vous donné votre feu vert en ce sens?
Alors, vous savez qu'on est sur un réseau donc de bibliothèques. Les 8 bibliothèques de la communauté de communes sont regroupées au travers, comme vous le dites, du réseau L'Esperluette. Ça veut dire qu'il est possible pour un habitant, par exemple, de l'Étrême, de commander un livre qui vient de la bibliothèque médiathèque de Merville. Donc on a une petite camionnette qui tourne tous les jours, et ce service-là, il est formidable, puisque ça permet de proposer aux gens de la communauté de communes près de 150 000 ouvrages différents. Ce qui a été décidé, ou en tout cas ce qui devrait être validé jeudi par les maires de la communauté de communes, c'est que chacune des bibliothèques ouvre de manière individuelle, mais nous n'allons plus transporter les livres jusqu'au 1er septembre. Parce que la difficulté, c'est que un livre qui vient d'une bibliothèque A vers une bibliothèque B doit être décontaminé à son arrivée, et ça devient extrêmement complexe. Donc par mesure de précaution, les bibliothèques vont réouvrir, mais ce ne sera pas possible jusqu'au 1er septembre de faire circuler les livres d'une bibliothèque à l'autre. Donc l'Esperluette va encore vivre au travers de son portail numérique, mais plus dans la diffusion des ouvrages d'un lieu vers un autre, donc ce sera un service qui sera réduit quand même jusqu'au 1er septembre.
Alors, de manière générale, on note une réouverture progressive des services intercommunaux. Le refuge animalier de Merville réouvre en service dégradé. Les bibliothèques vont rouvrir de manière individuelle. Les déchetteries ont rouvert également. D'autres services sont de nouveau ouverts, Bruno Ficheux?
Alors, la grande question aujourd'hui sur l'équipement intercommunal majeur chez nous, c'est l'ouverture de la piscine Longine. Donc aujourd'hui, selon les informations qui sont à notre disposition, on entend parler de possible réouverture pour la saison estivale, donc le mois de juillet, hein, début juillet. Donc ça, c'est un gros sujet pour nous. Deuxième sujet, c'est l'accueil du public au sein du bâtiment Flandre-Lys. Donc là, dès ce lundi 11 mai, on aura ouverture au public, mais pour l'instant, sur les plages du matin. Hein, on sera ouvert 8h30 midi. On va tourner comme ça pendant une dizaine de jours, et puis après, on rouvrira sur la totalité de la semaine, selon les horaires qui étaient les horaires habituels avant la crise du corona. Et puis, gros sujet pour nous aussi, c'est la gestion des ordures ménagères et donc toute la partie des bacs poubelles. Donc on avait un service minimum jusqu'à maintenant, mais là on va pouvoir de nouveau repartir à pleine cadence à partir de lundi, mais surtout dans une quinzaine de jours. Toute la partie aussi de l'urbanisme, donc on traitait les dossiers et on discutait avec les pétitionnaires par oral, hein, bien évidemment, par liaison téléphonique. Donc là, on va pouvoir accueillir à partir de lundi de nouveau, de manière physique, les personnes qui ont déposé des permis de construire et qui ont des questions à nous poser sur ces 10 permis. On aura aussi progressivement la réouverture du service santé. Hein, donc, on va essayer de caler notre programme pour être prêt à partir du mois de septembre, puisque nos interventions dans les écoles, hein, ça ne vaut pas tellement le coup et c'est très difficile à mettre en œuvre d'ici la fin de l'année scolaire. Notre relais, nos relais assistantes maternelles, donc là, pareil, il n'y aura pas d'ouverture dans les locaux qui se situent dans chacune des communes avant le 1er septembre, et on va garder le lien par la partie téléphonique ou par la partie mail avec nos assistantes maternelles. Et puis après, on va surtout essayer de relancer les grands chantiers de la communauté de communes de manière à pouvoir donner du travail aux entreprises, notamment les entreprises du BTP.
Qu'est-ce qui reste à faire pour organiser au mieux ce déconfinement? J'imagine qu'il reste beaucoup à faire sur le plan de la remise en route des différents services.
Alors, on est beaucoup, beaucoup sur le service développement économique, puisque vous savez qu'on a lancé quand même une aide extrêmement conséquente, puisque on a pour ambition de consacrer 5 millions d'euros à l'aide aux entreprises du territoire, 3 millions d'euros pour les entreprises de 10 salariés ou moins de 10 salariés, 1 million d'euros pour les professions libérales et 1 million d'euros pour les PME dont l'effectif est supérieur à 10 salariés. Donc dès ce jeudi, nous allons lancer la première commission d'études des dossiers qui nous sont parvenus et on devrait pouvoir sous 15 jours déjà commencer à faire les premiers versements d'aide. Donc ce qui nous occupe beaucoup, c'est ce soutien au monde entrepreneurial, à l'activité économique, et on va réorganiser une partie des services pour pouvoir répondre de manière la plus rapide possible aux entrepreneurs, aux gens qui ont porté des dossiers de soutien.
Alors il y a évidemment l'accompagnement financier, il y a aussi l'accompagnement humain. Alors vous avez dû, hein, on l'imagine bien, mettre en place tout un tas de nouvelles dispositions pour accueillir le public dans les locaux de la communauté de communes Flandre-Lys et les différents services qui vont réouvrir, hein, pour assurer le respect des gestes barrières. Le protocole du gouvernement a été publié sur le site du ministère du Travail, un protocole assez fastidieux à mettre en place. Est-ce que vous avez eu aussi justement des sollicitations d'entreprises pour permettre l'adaptabilité de certains locaux?
Les sollicitations des entreprises, on les a pas tellement sur cette thématique-là. On a plutôt des sollicitations sur comment se fournir en masque, comment se fournir en gel hydroalcoolique, comment se fournir parfois même de manière très basique, hein, en savon. C'est plutôt ce genre de choses-là qu'on peut avoir, enfin savon professionnel, distributeur, etc. Donc c'est plutôt ce genre de demande-là qu'on a.
Est-ce que vous allez aussi accompagner, par exemple, dans la fourniture de ces matériaux professionnels, si vous en avez la possibilité?
Alors aujourd'hui, on a fait un listing de l'ensemble des entreprises qu'on peut solliciter pour obtenir des masques, du gel, etc. Et donc, quand on a une solution d'entreprise, une sollicitation d'entreprise, on peut lui indiquer, voilà, téléphoner à tel numéro, c'est à tel endroit, etc. Vous devriez être fourni dans tel délai, etc. Hein, on procède comme ça. C'est essentiellement notre manière d'accompagner l'entreprise, les entreprises sur ce type de demande.
Alors, le déconfinement approche le 11 mai. Jeudi 7 mai, nous en saurons déjà un peu plus avec la carte officielle qui permettra de savoir quels sont les départements et les régions classés rouges ou classés vertes. À l'heure actuelle, notre région est classée en rouge. On apprend ce matin que Mayotte, département d'outre-mer, a vu son déconfinement reporté puisque le virus y circule de nouveau de manière très active. Est-ce que vous êtes confiant sur ce déconfinement? Confinement et sur sa mise en place au gré de ce que vous rencontrez tous les jours sur le terrain?
Alors, moi, je vais vous répondre à titre uniquement personnel, uniquement en mon nom de citoyen, Bruno Fischieux, et pas en tant que maire et pas en tant que président de la communauté de communes. Le déconfinement aura lieu, c'est une évidence, ne serait-ce que parce que ça n'est plus supportable économiquement. Et on entend bien les différents messages des membres du gouvernement. Vous avez le ministre de la Santé là qui vous parle comme si vous étiez un enfant de maternelle en vous disant « Mais si vous faites pas bien, attention, on le fera pas. » Et puis vous avez le secrétaire d'État au tourisme qui vous dit la même chose. Et puis hier, vous avez le Premier ministre qui a dit « De toute façon, on ne peut plus attendre, il faut déconfiner. » Bien évidemment, quand vous avez 11 millions de salariés qui sont rémunérés par l'État au chômage partiel, ça ne peut durer qu'à un certain moment, à un certain laps de temps. Et c'est totalement impossible d'imaginer que ça peut durer. Et aujourd'hui, si on nous demande de réouvrir les écoles, je suis convaincu que ce n'est pas dans un souci vraiment pédagogique au départ. C'est bien pour relancer la machine économique. Quand même, on a fait des coupes drastiques dans les dotations d'État, dans le monde de l'hôpital. Et puis ici, en 6 mètres de temps, il y a quasiment 300 milliards qui ont été dépensés. Donc cette situation-là, elle est intenable, que ce soit pour nous ou que ce soit pour les pays voisins. Et on le sait, si on regarde un petit peu la presse spécialisée, la France, voilà, a eu quand même une politique très favorable vis-à-vis de ses entreprises pour les soulager, donc par la mise en place de ce chômage partiel. Mais c'est absolument pas tenable dans le temps. Donc, de toute façon, à mon sens, situation sanitaire stable, meilleure ou un peu moins bonne, je pense que de toute façon, le déconfinement est absolument obligatoire et que l'État ne peut plus tenir. C'est une évidence pour moi.
Et avec effectivement le rôle des élus locaux en première ligne pour accompagner ce déconfinement. Merci beaucoup Bruno Fischieux d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes maire des Terres et président de la communauté de communes Flandre-Lys. Merci à vous.
Merci beaucoup.
La FM que j'aime.
I promised myself, I promised I'll wait for you. The midnight hour, I know you'll shine on through. I promised myself, I promised the world to you. I gave you flowers, you made my dreams come true.
Nick Kamen à l'instant sur Radio Plus. Vous êtes toujours dans votre émission Savoir Plus et à présent, on parle de la recherche contre le coronavirus. L'Institut Pasteur de Lille a créé une task force pour faire avancer cette recherche et tenter de trouver des traitements efficaces. Je me suis entretenu avec le professeur Daniel Camus qui fait partie de cette task force. Depuis la fin février, l'Institut Pasteur de Lille a débuté des recherches afin de trouver un ou plusieurs remèdes contre le coronavirus en créant une task force. Daniel Camus, médecin au Centre de prévention et d'éducation pour la santé de l'Institut Pasteur de Lille, fait partie de cette task force le 5 mai dernier. Il a tout d'abord expliqué de quoi elle était constituée.
La task force a pu se constituer à l'Institut Pasteur de Lille parce qu'on était dans une configuration assez favorable. Je veux dire par là que les coronavirus est un sujet de recherche sur lequel l'Institut Pasteur travaille depuis de très nombreuses années. Donc il y a une équipe extrêmement compétente, qui a beaucoup d'expérience, qui connaît très très bien les coronavirus. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on disposait et qu'on dispose toujours de ce qu'on appelle une chimiothèque. Imaginez une énorme réserve de médicaments et pas que de produits, mais pas n'importe lesquels. Ce sont des médicaments qui ont déjà une autorisation de mise sur le marché. C'est-à-dire que ce sont des médicaments qui ont déjà été utilisés dans d'autres pathologies que les coronavirus et qui permettent justement de s'affranchir, si jamais ils s'avèrent être efficaces, de tout le processus de validation pharmacologique. Et puis, en troisième lieu, lorsque vous voulez faire du screening de médicaments, vous ne pouvez pas le faire comme ça, médicament par médicament. Il faut des techniques qui soient semi-automatisées, de façon à pouvoir traiter à grande échelle et rapidement un très grand nombre d'échantillons. Donc, la réunion de ces trois forces qui existaient déjà au sein de l'Institut a été voulue par le directeur, M. Xavier Nassif, et ça a donné naissance à ce qu'on a appelé la task force. Voilà.
Alors, professeur Camus, donc j'ai cru comprendre que l'objectif était de tester près de 2000 molécules en les comparant à l'action de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine. C'est deux produits qui ont déjà fait couler beaucoup d'encre. C'est bien cela?
Oui. Et c'est parce que c'est in vitro, tout au moins, on sait que l'hydroxychloroquine a une action sur les virus. In vivo, c'est-à-dire chez l'homme, c'est tout à fait différent, mais in vitro, ça a une bonne action. Donc, ça sert un peu de référence.
Alors, où en êtes-vous dans vos recherches sur les traitements? Est-ce que vous avez obtenu des résultats encourageants jusqu'à présent?
Alors, il y a quelques premiers résultats, bien entendu. Mais il y a toute une série de contrôles. Il faut s'assurer de non-toxicité. Il faut déterminer les doses qui sont les plus efficaces parce que comme toujours quand on fait de la recherche sur de nouveaux médicaments, faut trouver un juste équilibre entre la toxicité et l'efficacité. Il faut que ce soit au maximum d'efficacité, mais sans pour autant tuer les cellules et l'organisme. Donc on est toujours à jouer comme ça sur cette balance. Efficacité, toxicité. Mais il y a quelques pistes là qui sont se dessiner.
Lesquelles? Est-ce que vous avez justement?
Alors, oui. Comprenez bien que je ne peux pas le dire parce que d'une part c'est trop préliminaire et on veut pas. C'est une éthique chez nous. On veut pas créer de faux espoirs. Mm-hmm. Il faut que les choses se fassent selon les règles. On ne traîne pas, au contraire, les équipes sont très motivées, très efficaces, mais il ne faut pas, vouloir brûler les étapes. Non.
Le professeur Daniel Camus de l'Institut Pasteur de Lille a récemment déclaré au quotidien 20 minutes, je cite, « Il n'y a pas de vaccin, il n'y en aura pas pendant longtemps ». Je lui ai demandé pourquoi la mise au point d'un vaccin était aussi longue.
La question que vous posez pose en fait un problème de fond. Quand on produit un médicament, c'est souvent de la synthèse chimique. Quand vous étiez à l'école, vous avez fait des synthèses. Un corps A plus un corps B, ça donne souvent un corps C plus un corps D. D'accord? Vous vous souvenez, c'est peut-être... Eh bien, une fois qu'on a réglé ce problème-là, après, la production en masse, c'est relativement facile. Alors que pour les vaccins, on travaille sur du matériel vivant. Et c'est une contrainte terrible parce que ça oblige d'abord à être certain que l'effet observé va se reproduire régulièrement. On est sur du vivant, le vivant ne répond pas toujours de la même façon. Et il faut énormément de contrôle. 65% du temps de production d'un vaccin est consacré à des manœuvres de contrôle. Pour un médicament, le délai d'obtention d'un médicament, une fois qu'on a le système de synthèse, c'est de l'ordre de quelques mois. Quand vous parlez de vaccin, c'est différent, c'est toujours de l'ordre de 1 à 2 années au moins.
Si j'ai bien compris, en fait, le coronavirus qu'on étudie actuellement, c'est quelque chose qui mute, qui peut muter régulièrement, c'est ça ?
C'est pas le phénomène de mutation. En plus de ça, il mute, ça peut créer des difficultés. Mais c'est le fait que, travaillant sur des organismes vivants, la reproductibilité doit être parfaitement assise avant qu'on autorise véritablement une production en masse du vaccin.
Donc on est par contre en droit d'espérer un traitement plus rapidement que le vaccin lui-même.
Vous avez tout à fait raison. En règle générale, on produit plus facilement un médicament et plus rapidement qu'on ne produit un vaccin.
Alors une autre question, c'est celle de l'immunité collective face au coronavirus. Or, on ne sait toujours pas si le fait d'avoir été infecté par le coronavirus peut empêcher une réinfection. Est-ce qu'il faut, selon vous, abandonner cette idée d'immunité collective ou la conserver au contraire ?
Non, c'est une donnée qu'il faut garder à l'esprit. Ce qui a été surprenant ici dans le cas du coronavirus, c'est qu'on s'est aperçu que certains anticorps produits en réaction à l'infection, notre organisme réagit en produisant des anticorps, ces anticorps, certains d'entre eux sont neutralisants, c'est-à-dire qu'ils tuent le virus, mais à côté de ça, l'organisme peut quelquefois, pas à tous les coups, mais peut quelquefois produire des anticorps qui ne sont absolument pas neutralisants. Ils n'ont pas d'effet sur le virus. Donc, devant cette donnée nouvelle, ça pose un problème parce que on ne peut pas finalement dire à quelqu'un qui a été infecté, écoutez, soyez tranquille, vous ne ferez jamais plus la maladie. Ou ça ne peut pas dire à quelqu'un, donnez votre sérum et votre sérum, on va l'injecter à un malade et ça va le guérir. C'est des choses qu'on ne peut pas dire avec certitude. Donc, il faut d'abord qu'on remette au point des méthodes de diagnostic qui permettront de détecter les anticorps neutralisants et uniquement cela, de cette façon que l'on puisse vous dire, monsieur X, vous avez été infecté, vous êtes protégé, vous pouvez continuer à vivre normalement, vous pouvez revoir vos enfants, vos petits-enfants, ou vous pouvez reprendre votre travail, il n'y a pas de problème.
À l'heure du déconfinement, pour le professeur Daniel Camus de l'Institut Pasteur de Lille, la crainte d'une seconde vague épidémique demeure fondée.
On peut craindre une seconde vague parce que les moyens que l'on oppose au virus sont des moyens finalement fragiles. Vous vous rendez compte que les seuls moyens que l'on ait, c'est de dire vous vous embrassez pas, vous ne vous serrez pas la main, vous éternuez dans votre manche, vous mettez un masque, vous gardez un certain nombre de distances à 1 mètre des uns des autres.
Oui.
Ce sont des moyens efficaces, mais la moindre faiblesse dans ces procédures fait que le virus s'y engouffre tout de suite. Donc c'est pour ça que j'ai dit que ce sont des moyens qui ont une forme de faiblesse parce qu'il est très contraignant de les appliquer. C'est beaucoup plus difficile à appliquer toutes ces mesures que de prendre un médicament ou de se faire injecter un vaccin.
Cet entretien a été réalisé le 5 mai dernier par Jean-Philippe Planck de Radio Plus.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Ma station, ma région, ma patronne, Radio Plus.
M'appelle l'idole des jeunes, il en est même qui m'envient, mais ils ne savent pas dans la vie que parfois je m'ennuie, Je cherche celle qui serait mienne, mais comment faire pour la trouver? Le temps s'en va, le temps m'entraîne. Je ne fais que passer. Dans la nuit, je file tout seul de ville en ville. Je ne suis qu'une pierre qui roule toujours. J'ai bien la fortune et plus, et mon nom partout dans les rues. Pourtant, je cherche tout simplement l'amour. Et une fille souvent me guette, quand s'éteignent les projecteurs. Soudain sur moi, elle se jette, mais pas une dans mon cœur. Dans la nuit, je file tout seul de ville en ville. Je ne suis qu'une pierre qui roule toujours. Il me faut rire et danser. Oui, le spectacle terminé. S'en aller ailleurs au lever du jour. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Il en est même qui m'envient. Mais s'ils pouvaient savoir dans la vie combien tout seul je suis, combien tout seul je suis.
Johnny Hallyday à l'instant sur Radio Plus. Voilà, c'est la fin de cette émission Savoir Plus. Je vous remercie de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver bien sûr cette émission en podcast sur le www.radioplus.fr. Je vous souhaite une très très bonne journée à l'écoute des programmes de Radio Plus.